100% Club.
100% Club.
C'est parti pour une émission spéciale supporter. Hier avait lieu la 5e réunion plénière de l'instance nationale du supporterisme. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, comme les discriminations, les déplacements ou encore les tribunes debout. On va parler de tout ça ce soir. On évoquera aussi en fin d'émission les fumigènes. On attend vos appels. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez envie de réagir sur ces thèmes-là. 04 77 10 00 10. Partagez vos opinions, vos points de vue. On est ensemble jusqu'à 19h. Nos invités, Régis Juanico, député de la Loire, qui fait partie de la mission parlementaire sur le sujet du supporterisme. Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters, il sera en ligne avec nous également. Et puis ici en studio, Jean-Guy Rioux, président de l'Union des supporters stéphanois. Et Paul d'Envers et Contre tous.fr.
France Bleu, 100% Club.
Bonsoir Paul.
Bonsoir Olivier,
habitué
bonsoir
de l'émission. Bonsoir Jean-Guy Rioux. On vous a souvent au téléphone, normal parce que vous n'êtes pas de Saint-Étienne.
Tout à fait.
Mais vous venez exprès à Saint-Étienne ce soir, parce que vous êtes plutôt dans la Drôme, pour une réunion, c'est ça?
Tout à fait.
Réunion avec le club?
Oui, on prépare le déplacement en Ukraine.
Donc, il y a des choses évidentes à préparer. Le déplacement, on va en parler justement dans cette première partie. D'abord, on va être général. Comment s'est passée cette 5e réunion plénière hier de l'instance nationale des supporters?
Bien, très studieuse, plus de 3 heures de débat. Les membres de l'instance nationale du supporterisme ont effectivement présenté leur rapport à Madame la ministre,
ouais.
Au secrétaire d'État, Laurent Nunez, auprès du ministre de l'Intérieur, et également aux membres de la commission parlementaire de l'Assemblée nationale, puisque Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, était présente, ainsi que Sacha Houillier, qui est députée de la Vienne.
Exactement. Alors, on va entrer dans les détails durant cette émission, mais de façon générale, est-ce que vous êtes satisfait?
Oui, on pouvait craindre des annonces du ministère de l'Intérieur qui ferme la porte au débat, et cela n'a pas été le cas.
Bon.
Donc c'est déjà une bonne chose. Et la présence du secrétaire d'État est un geste fort du ministre de l'Intérieur et du ministère de l'Intérieur.
C'était donc la 5e réunion plénière. Est-ce que généralement il y a des effets concrets qui suivent ces réunions-là?
Oui, puisque dès la première assemblée plénière, nous avions décidé de mettre en place le référent supporter dans les clubs de football de Ligue 1, Ligue 2, rugby, basket, volley et hand. Chose qui a été suivie des faits, puisque très rapidement, la Ligue a désigné une série de référents supporters qui ont été ajustés par la suite. Et on a pu mettre en place tout de suite une formation de ces référents supporters qui amène aujourd'hui à ce que tous les clubs, hormis deux qui en ont plus d'un, tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont un référent supporter qui est désigné. Alors parfois, et la problématique, c'est qu'il a 2 voire 3 casquettes.
Paul.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va en parler après, mais les premières décisions, les premiers comptes rendus de ce qui s'est dit hier laissent penser qu'effectivement, les clubs vont devoir s'armer de un ou plusieurs référents supporters dans les semaines à venir, puisque le rôle du SLO, donc du référent supporter, va être élargi sur 2 nouvelles missions a priori.
Donc c'est une carte qui est entre les mains des clubs là, de ce côté-là en tout cas.
Oui, qui avait été peut-être mal perçu au départ parce que ce n'était pas habituel en France.
Ouais.
Quand on compare avec l'Allemagne, en première division allemande, tous les clubs ont obligation d'avoir 3 référents supporters. Et si vous prenez Dortmund, ils en ont 10.
Ah oui, 10. Donc ça risque de se développer dans les années à venir. On va pas forcément ça va pas forcément se mettre en place avec un claquement de doigts, je suppose. Même si Saint-Étienne a déjà le sien.
Tout à fait. Alors effectivement, c'est la LOL arrivée qui a obligé tous les clubs à avoir un référent supporter. Comme je vous l'ai dit, c'était pas habituel dans les clubs français. C'est un poste clé. Effectivement, les clubs vont être obligés de se mettre au diapason et d'avoir les meilleurs référents supporters possibles.
Paul, vous avez lu le compte-rendu de cette 5e réunion plénière de l'instance nationale du supporterisme. Vous en pensez quoi, comme ça, là, après avoir lu ce compte-rendu?
Alors, bon, déjà, vous savez que j'ai un avis qui est parfois tranché sur les supporters. Voilà, je suis un peu parti pris, forcément. Je suis un enfant de Geoffroy Guichard, donc il y a des choses qui, des fois, m'embêtent un peu quand on va pointer et stigmatiser certains comportements des supporters. La seule chose moi qui m'a dérangé, mais encore une fois je n'y étais pas, hein, je n'ai fait que lire le compte rendu, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une très très grande partie de cette réunion qui avait été consacrée aux discriminations et à l'homophobie dans les stades. Alors, si vous voulez, c'est un réel...
Le contenu est compte-rendu, en tout cas. Après,
voilà. C'est un réel problème aujourd'hui, effectivement, les discriminations dans les stades. Ce qui me dérange un petit peu, si vous voulez, c'est que je trouve que ça fait un peu la part belle à globalement une situation qui a été mise en place par la ministre elle-même et par Marlène Schiappa pendant 2 mois, à coup de déclarations, à coup de stigmatisation en l'occurrence, et que je trouve que, quelque part, on vient un petit peu légitimer le bazar qui a été mis pendant 2 mois. Et moi, en tant que supporter, ça me pose quand même un petit souci d'avoir lu ça ce matin dans le compte-rendu de la réunion. Il me semble avoir l'impression que ça a pris une grosse place dans les échanges d'hier.
Jean Guérillot.
Alors effectivement, on en a parlé longuement, mais c'est pas le sujet qui a été le plus débattu, puisque le sujet qui a été le plus débattu, ce sont les interdictions et restrictions de déplacement, avec diverses interventions, évidemment, de la ministre des Sports et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Donc effectivement, c'était un sujet prégnant. On ne pourra pas le régler, effectivement, en 2 coups de cuillère à peau. On a demandé du temps, on a une mission de suivi avec un cabinet qui a été recruté par le ministère des Sports après aval de l'instance nationale du supporterisme et qui va travailler pendant 3 mois, qui va interroger des groupes de supporters, donc une quinzaine seront ciblés, des partenaires du monde du football, les diffuseurs et effectivement les clubs. Donc peut-être que sur le compte-rendu, ça paraît comme la partie qui a été la plus longue. En tous les cas, je puis vous garantir que la partie la plus longue a été sur les interdictions et restrictions de déplacement.
Et écoutez justement le secrétaire d'État, Laurent Nouniès, qui s'est exprimé justement sur cette question-là.
Ce sera le cas chaque fois que, au travers d'une concertation avec le club visiteur, avec le club recevant, avec les responsables de la sécurité, avec les responsables des supporters, chaque fois que nous pourrons avoir des garanties que le déplacement sera dans des conditions de sécurité optimales, c'est-à-dire qu'il sera encadré avec un point de rendez-vous, un accompagnement vers le stade et une prise en charge de ces supporters dans des conditions de sécurité. Et c'est cela dont il faut maintenant qu'on discute dans les semaines qui viennent, au cas par cas, match par match, avec les préfets compétents et le plus en amont possible, c'est-à-dire un minima 3 semaines avant le coup d'envoi du match.
Donc, en gros, Jean Guérillot, plus de concertation et moins de restrictions, c'est ça qu'il faut retenir.
C'est le but avoué, et effectivement, qui a été pris en compte par le ministère de l'Intérieur, puisque si on se souvient bien des propos de Laurent Nouniès il y a quelques mois en arrière, les arrêtés qui étaient pris par les préfets étaient tous légitimes et concordaient à la réalité des faits. On s'aperçoit que effectivement, en plus avec l'appui des parlementaires, puisque la commission parlementaire travaille sur ce sujet-là, il y a une évolution vers une possible avancée au niveau des interdictions et restrictions de déplacement pour qu'il y en ait moins.
Paul.
Je trouve ça très bien, effectivement, d'amorcer en amont le travail autour des déplacements et surtout avec tous les acteurs de ce déplacement. Maintenant, est-ce que pour autant les arrêtés préfectoraux, lorsqu'il y en aura, vont être pris plus tôt? Parce que c'est aussi un des problèmes aujourd'hui pour les supporters. Les déplacements, souvent, les interdictions sont faites 72 heures à l'avance, parfois même plus tard, jusqu'à 48 heures, des fois, on a eu le cas. Donc, c'est bien de travailler en amont, mais il va falloir aussi prévenir plus tôt. Donc, on peut espérer justement que ces réunions peuvent permettre, lorsqu'il y aura des interdictions, que tout le monde soit au courant un petit peu plus tôt que c'est le cas actuellement.
Jean-Philippe est supporter de Saint-Étienne. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.
Vous habitez au sud de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est ça?
Tout à fait.
Et vous vouliez réagir justement sur cette question des déplacements des supporters?
Bah oui, parce que moi je suis parti d'un groupe de supporters, voilà, c'est quand notre président Patrick Beau organise quelque chose et que dernièrement ça annule, c'est que cela devient insupportable. Notamment pour les déplacements, la réservation des places. Enfin, c'est venu, moi si vous voulez, j'ai connu les Verts en 77 au stade Marcel Sopa à Nantes. Les supporters se déplaçaient facilement, il n'y avait pas toutes ces restrictions. On vit dans un monde, malheureusement, la violence est présente partout, hein, aussi bien dans les stades que dans la vie de tous les jours. Et je déplore, quand les Verts viennent à Nantes, ils sont interdits, les supporters. Est-ce que vous trouvez ça normal que la Ligue de football, quand ils reçoivent des interdictions par le préfet, hein, ils sont prévenus au dernier moment pour tous les groupes de supporters, c'est vraiment frustrant. Hein. On aime les Verts, on aime le club. Moi j'ai la chance d'aller, j'essaie d'aller le plus souvent à Saint-Étienne, 85 déplacements. Je suis fidèle depuis 75. Donc voilà, si vous voulez, quand les Verts, leur épopée se déplaçait quand même un peu partout en France, quand il y a eu l'épopée 76, il n'y avait pas toutes ces restrictions là. Vous êtes d'accord?
C'est notre époque.
C'est sûrement
c'est
moins violente, mais c'est vraiment pénalisant en 2019.
On va poser la question à Pierre Barthélémy, il est avocat de l'Association nationale des supporters et il était hier avec dans cette réunion de l'instance nationale du supporterisme. Bonsoir Pierre Barthélémy.
Bonsoir.
Est-ce que ce qui s'est dit hier en réunion va tendre à rassurer les supporters alors des Verts, mais de tous les clubs de foot de Ligue 1 et de France?
Pour rassurer les supporters, il faut du concret et des résultats, parce que des promesses, on en a eu beaucoup, on a eu des discours, on en a eu beaucoup. En revanche, ce qui est certain, c'est que là, les discours et la manière dont il y a eu des propositions et des préconisations très concrètes et qui montraient une bonne maîtrise du sujet sont beaucoup plus encourageantes que ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc il y a d'une part de quoi être confiant, parce qu'en plus c'est l'aboutissement d'un travail dans lequel les supporters ont été impliqués et Jean-Guy en première ligne pourra le confirmer. Et deuxièmement, parce que il y a aujourd'hui le sentiment et la compréhension à tous les niveaux que c'est allé beaucoup trop loin dans l'utilisation de ces arrêtés et qu'on a perdu un peu le sens même de son utilité.
On va faire une courte pause dans cette émission consacrée aux supporters. Jean-Guy Rioux, vous restez avec nous. Hein. Vous serez libéré dans un petit quart d'heure parce que vous allez devoir filer au stade Geoffroy Guichard. Pierre Barthélémy aussi, vous restez avec nous. Puis dans un instant, on accueille Régis Jeunico, député de la Loire. France
Bleu. Je vais vous raconter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu. Découvert aux côtés de Jean Dujardin, après une belle carrière à l'écran et plus de 15 films, il revient sur scène pour un spectacle déjanté avec le show du futur, c'est Bruno Salomon.
Salut, tu aimerais voir comment ça se passe dans le futur? Eh bien viens voir le show du futur.
Il sera à l'escale de Vosges le 2 novembre à 20h30. Bruno Salomon y joue tour à tour un animateur puissant et mégalo, des chroniqueurs avant-gardistes, des rubriques improbables, des météos surréalistes, des pubs extravagantes, jusqu'au moment où tout bascule. Bruno Salomon à l'escale de Vosges le 2 novembre avec son nouveau spectacle. Écoutez bien France Bleu Saint-Étienne Loire, on vous offre vos places.
France Bleu et TF1 présentent Disney sur glace, la magie éternelle. Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire avec plus de 50 personnages Disney. Disney sur glace avec Mickey, Minnie, les princesses Disney et leurs princes, Woody, Buzz et Fourchette de Toy Story, le Roi Lion, Aladdin et tant d'autres. Disney sur glace, la magie éternelle, le spectacle événement. Du 11 au 22 décembre, au Zénith de Paris, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu, Saint-Étienne-Loire. France Bleu, 100% club.
Jusqu'à 19h, une spéciale supporter après la réunion plénière de l'instance nationale du supporterisme qui a eu lieu hier à Paris. On est avec Jean-Guy Rioux, président de l'Union des supporters stéphanois. On est en ligne aussi avec Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters, et puis aussi avec Régis Jeunico, député de la Loire. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Régis Jeunico, on parlait de déplacement de supporters. C'est un vrai débat et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps dans cette réunion hier. C'est un vrai débat et des mesures doivent être prises. En tout cas, ça va dans ce sens-là, cette réunion, Régis Jeunico.
Oui, il faut pas oublier non plus l'expérimentation positive de Tribune Debout, hein, à partir des cadres stades, les quatre stades, dont notamment celui de Saint-Etienne, et qui vont permettre une généralisation aussi de l'expérimentation Tribune Debout hier. Mais surtout, ce qui est important, c'est que hier, il y avait le secrétaire d'État à l'intérieur qui était présent, Monsieur Laurent Nunez. Et rien que sa présence déjà, c'est un pas en avant. Alors après, il faut attendre de voir la circulaire qui sera envoyée au préfet pour voir comment on peut aujourd'hui harmoniser un certain nombre de décisions des préfets sur l'encadrement et l'interdiction de déplacement. L'ANS a fait un décompte depuis 11 journées. On en est à 47, je crois, restrictions de déplacement et 12 interdictions de déplacement des équipes. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement important et on peut pas continuer comme cela. Et donc il y a nécessité d'avoir une régulation, une coordination au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous avons demandé qu'il y ait un préfet coordinateur, régulateur, qui puisse aujourd'hui pouvoir intervenir. Et notamment aujourd'hui, il y a très peu de matchs qui sont à très haut risque, qu'on puisse intervenir pour ne pas banaliser, je dirais, ces arrêtés préfectoraux d'interdiction ou de restriction de déplacement.
Et quel peut être le rôle des parlementaires dont vous faites partie?
La mission parlementaire qui se rendra d'ailleurs à Saint-Étienne le 28 novembre, puisque ce jour-là, nous organisons un match entre l'équipe de France des députés et les anciens Verts. Sacha Houlier sera présent. Je ne sais pas si ma collègue Marie-George Buffet sera présente ce jour-là, mais ils vont se déplacer sur le terrain. L'ambition, c'est que, effectivement, nous puissions avoir un certain nombre de préconisations au mois de décembre, lors de la remise de ce rapport d'évaluation de la loi à l'arrivée. Et que derrière, nous puissions avoir un certain nombre de dispositions législatives qui soient prises, notamment dans le cadre de la loi Sport et Société qui devrait être examinée dans le courant de l'année 2020. On n'a pas encore de date. Mais je voudrais souligner quand même quelque chose de très important, c'est que la loi à l'arrivée, au départ, c'était dans un contexte extrêmement tendu de d'état d'urgence en tout début de l'année 2016. C'était une loi qui était exclusivement répressive. En fait, on voulait élargir en fait les possibilités d'interdiction administrative de stade pour les supporters violents. Et nous avons réussi, avec un certain nombre d'amendements dans la loi, à changer le titre de la loi et à en faire une loi de renforçant le dialogue avec les supporters, reconnaissant le rôle positif des supporters dans l'animation des stades, et puis surtout en créant, avec un amendement que nous avons défendu à l'époque avec François Rochebonne et Paul Salen, créer l'instance nationale de supporterisme qui fait un bon travail depuis sa création. Et puis nous avons créé aussi le référent supporter. Voilà, nous aurions voulu aller plus loin à ce moment-là, mais c'était déjà deux étapes importantes. Et on voit aujourd'hui que cette instance nationale du supporterisme fait du bon boulot. Et j'espère que le groupe de travail sur les fumigènes va aussi produire un certain nombre d'effets.
Et justement, on parlera des fumigènes en fin d'émission. Pierre Barthélémy, cette loi, l'arrivée qu'évoque Régis Joannico, c'est une loi qui, vous en tant qu'avocat de l'Association nationale des supporters, vous a donné du fil à retordre pour justement plaider la cause des supporters.
Bah, à la fois du fil à retordre, une belle opportunité, parce qu'à l'origine, comme ça vient de dire, c'était une loi extrêmement répressive qui était en plus très mal rédigée, et les travaux parlementaires ont permis donc d'une part de mieux la corriger sur la partie répressive en mettant des garde-fous, parce qu'on a aussi créé l'interdiction commerciale de stade que les clubs peuvent prendre contre les supporters. Donc après la judiciaire et l'administrative, on a créé encore un nouvel échelon d'interdiction individuelle. Mais surtout, voilà, il y a eu cette opportunité de sensibiliser un peu des parlementaires de tous bords à la question des supporters, de donner plus de légitimité, d'audience aux parlementaires qui étaient déjà très impliqués sur le sujet, comme M. Joannico. Et c'est là que, outre donc la création du référent supporter, de l'instance nationale du supporterisme et de l'agrément des associations de supporters, ce virage parlementaire a permis d'installer les supporters dans le débat public sur la question. Et aujourd'hui, toutes les avancées qu'on peut avoir et qu'on peut avoir sur le terrain, mais aussi dans les discussions au niveau national, elles viennent de ce débat compliqué mais nécessaire qu'on a eu en 2016.
Jean-Guy Rioux, vous, président de l'Union des supporters stéphanois, en tant que président d'une association de supporters, quel va être votre rôle après cette réunion-là? Parce que maintenant, c'est le terrain aussi qui doit parler, je suppose.
Bien sûr, alors, je suis membre de l'instance nationale du supporterisme et à ce titre, j'essaye de suivre la plupart des groupes de travail. Nous en sommes à 35. Et je pense que je dois en avoir fait entre 25 et 30. Donc il y a quelques sujets dont je vais déléguer mon rôle, notamment sur l'accueil des supporters en situation de handicap, parce que je ne suis pas spécialiste et on rentre vraiment dans les détails. Pour la suite, je vais continuer à participer à l'instance nationale du supporterisme. Nous arrivons en fin de mandat. Il devrait y avoir possibilité pour d'autres groupes de supporters de rentrer au sein de l'instance nationale du supporterisme. Je repostulerai certainement pour un second mandat, puisque nous avons le droit d'en faire deux, mais je poursuivrai les travaux comme nous l'avons fait depuis le début sur des sujets que l'on apprend également au fil du temps.
Est-ce qu'il va y avoir un dialogue entre les différents groupes de supporters justement après cette réunion par rapport aux sujets qui ont été abordés hier, les déplacements, mais aussi les discriminations, les homophobes qui ont été aussi au cœur de cette réunion?
Alors je pense que c'est plus à Pierre de Pierre Barthélémy de répondre à ce sujet. Effectivement, l'ANS regroupe un certain nombre de groupes de supporters et d'associations de supporters. Effectivement, il y a des débats qui sont engagés. Heureusement qu'il y a des débats qui sont engagés.
Mais ici, à Saint-Étienne, il y a des choses qui vont être faites.
Écoutez, on a une réunion tout à l'heure, donc il est possible qu'on l'évoque. Ça, ce n'est pas le sujet initial, mais c'est possible aussi.
Pierre Barthélémy, justement, maintenant, l'Assemblée nationale des supporters, quel va être son rôle après cette réunion? Il y a des préconisations qui vont être données, des réunions qui vont être faites?
Sur l'ensemble des sujets, nous, voilà, en fait, l'Association nationale des supporters a la vocation à être un interlocuteur au niveau national, mais après, évidemment, chaque groupe reste maître à bord au niveau local. Et donc, nous, notre mission en tant qu'association nationale, c'est de leur donner les outils, transmettre les informations pour pouvoir travailler au niveau local et réciproquement remonter les remarques, les bonnes pratiques et toute autre information pertinente du local vers le national. Donc, c'est, voilà, comme le dit Jean-Guy, c'est un travail à différentes échelles. Et aujourd'hui, on veut nous à tout prix laisser la main au niveau local parce qu'on a, par exemple, sur le sujet des discriminations, les groupes sont tous différents, le contexte local est toujours différent et on ne peut pas se permettre d'avoir des directives ou des injonctions nationales qui soient décorrélées de la réalité locale. Donc c'est là vraiment la priorité au local et c'est pour ça que c'est très bien que à Saint-Etienne, comme dans d'autres clubs, malheureusement pas partout, il y a régulièrement des réunions entre les responsables des groupes de supporters et le club parce que c'est la meilleure pratique et le meilleur moyen de progresser.
Mais hier, vous avez parlé à ce sujet-là des discriminations, vous avez parlé prévention, vous avez parlé sanctions. Qu'est-ce qui a été dit précisément ?
Il a été acté que la sanction moralisatrice venue de nulle part, soudaine et très violente, est complètement contre-productive et que seul un travail de prévention, de sensibilisation à long terme sera efficace. On a bien compris que le but, enfin, ce qui a été fait, c'est qu'on a donné le sentiment qu'on voulait d'une part réduire la liberté d'expression des supporters et d'autre part les traiter d'homophobes. Et c'était quand même deux biais méthodologiques complètement erronés. Maintenant, on a bien compris que c'était un travail non pas de moralisation, d'éducation ou de sanctions qu'il fallait mener, mais un travail de sensibilisation au fait que ces chants-là, même si c'est pas leur vocation, même si c'est pas la volonté des supporters, peuvent blesser certaines personnes à raison de leur orientation sexuelle ou d'autres motifs, et que comme personne ne va au stade pour blesser les gens, mais bien pour soutenir son club et éventuellement chambrer l'adversaire, mais on n'est pas là pour blesser des gens pour qui elles sont en tant que personne, il faut mener ce travail de réflexion interne et laisser les groupes petit à petit évoluer. Probablement plus vite que la société, hein, mais les supporters ont l'intelligence et la responsabilité collective pour le faire.
Régis Joannico, justement, vous faites partie de la commission parlementaire des affaires culturelles et de l'éducation. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement, cette question des discriminations au sein des stades de foot et notamment vous en tant que supporter de la Saint-Etienne ici à Geoffroy Guichard?
Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le nombre d'interpellations dans les stades liées à des sujets de discrimination, que ce soit le racisme ou l'homophobie, c'est une toute petite aujourd'hui, toute petite partie en fait du nombre d'interpellations. Aujourd'hui, il faut bien voir distinguer un certain nombre de sujets. Il y a les interdictions administratives de stade judiciaires, bon, qui peuvent être bien évidemment motivées par des comportements de violence. Et il y a le sujet qu'a abordé tout à l'heure Pierre Barthélémy, qu'il connaît extrêmement bien, des interdictions administratives de stade administratives, où là c'est un petit peu l'arbitraire qui joue. Il faut savoir que 40% des interpellations et des interdictions de stades administratifs sont liées à des craquages de fumigène. Vous voyez, c'est pas des comportements violents. Donc là, il faut qu'on puisse agir là-dessus. Et puis aujourd'hui, la principale question qu'il nous faut régler, je pense, c'est l'interdiction et la restriction des déplacements. Je pense que sur la question des discriminations et la question de l'homophobie, les choses vont progresser assez naturellement. Voilà, parce que c'est plutôt de l'ordre de la pédagogie, de l'éducation, et je pense que les choses vont changer progressivement dans les stades. Il ne faut pas en faire un sujet de braquage ni arrêter les matchs de façon trop régulière.
D'ailleurs, c'est terminé.
Sur l'interdiction de déplacement. Oui. Sur l'interdiction de déplacement, bon, j'attends de voir les choses. On a auditionné la Ligue nationale de football. Je pense qu'il y a quand même un changement un petit peu de comportement dans le dialogue avec les supporters depuis maintenant 2 ou 3 ans. Bon, il y a le problème aujourd'hui de la commission qui, elle, est indépendante de la Ligue et qui fait des sanctions collectives qui posent problème. Mais aujourd'hui, il y a quand même une volonté de la Ligue d'avancer, et notamment sur une expérimentation de fumigène. Ils vont le faire peut-être au Havre bientôt, je pense, où ils proposent au groupe de supporters de pouvoir allumer des fumigènes en bas de la pelouse sur des zones qui sont sécurisées. Bon, Ça a été proposé à Saint-Etienne. Enfin, vous pouvez imaginer que les groupes de supporters ne sont pas forcément très d'accord, en tout cas pour ce type de proposition. Mais je pense que là aussi on peut avancer. Donc j'espère qu'il y aura des propositions qui vont être faites et puis qu'on puisse nous modifier la loi pour que on ait des tribunes qui soient animées, qui soient dans un football populaire et qui soient pas des tribunes aseptisées, tout en gardant quand même des questions de sécurité qui sont évidentes, bien évidemment, quand on parle de fumigène. Voilà. Mais sur les déplacements, il faut voir ce que ça va donner. Là, il existe aujourd'hui des réunions, dans les clubs, qui ont lieu à peu près 15 jours, je crois, avant le match, à domicile. L'idée, c'est de faire 3 semaines avant, donc d'avoir des décisions beaucoup plus en amont. Voilà, il faut voir aujourd'hui si les préfets vont continuer à prendre des décisions un petit peu sous-motivées sur le plan juridique, ou est-ce qu'on va aller vers un apaisement, et je le souhaite, parce que sans déplacement les supporters, on peut pas avoir un football populaire et donc des tribunes qui sont remplies.
Justement, Pierre Barthélémy, par rapport à ces interdictions de déplacement, est-ce que parfois vous trouvez qu'il y a des décisions qui sont abusives et qui peuvent, vous en tant qu'avocat, vous pouvez peut-être lutter contre et faire changer les décisions?
La majorité aujourd'hui des décisions sont abusives. On a quand même des interdictions pour des matchs qui sont pas du tout à risque, avec très peu de supporters. On est quand même un pays qui sait accueillir des Coupes du Monde, des Euros, des Jeux Olympiques. Donc prétendre qu'on sait pas accueillir 50 supporters visiteurs dans des stades neufs avec des parkings sécurisés, des tribunes sécurisées, c'est un peu hypocrite. Donc il y a un vrai sujet. Là, évidemment, le droit est une option. Il y a toujours possibilité de saisir la justice, d'avoir des longues procédures, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut travailler en bonne intelligence. On veut pas être en opposition entre les supporters d'un côté, l'État de l'autre côté et un juge qui fait l'arbitre. Enfin, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on travaille ensemble parce qu'on a tous la même volonté, qui est de ne pas mobiliser trop de forces de l'ordre, de ne pas créer de troubles à l'ordre public. Donc tout ça, ça justifie qu'on se mette tous sur la même ligne. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et on a tous compris qu'en fait, la clé, c'était d'avoir plus de dialogue pour mieux faire circuler les informations sur combien de supporters se déplacent, dans quelles conditions, pour permettre aux forces de l'ordre d'adapter leur dispositif. Avec l'instrument créé par la loi de 2016, qui est le référent supporter et qui est clé, puisque c'est lui qui a la confiance à la fois de son club, des supporters et des pouvoirs publics dans les réunions de préparation des matchs. Donc à partir du moment où on trouvera un moyen de mettre en place des bonnes pratiques de transmission des informations 3 semaines en avant, avec un dispositif qui va se roder, une habitude, une confiance aussi qui va se créer entre les préfets, les directeurs de la sécurité départementale et les référents supporters, une relation de confiance et des expérimentations qui vont bien se passer, on va arriver vers une fluidité de ces travaux, et très naturellement le bon sens va primer et on devrait avoir une décroissance de ces arrêtés. Donc il faut juste donner sa chance au dialogue, se faire confiance, se rappeler que à la fin en fait on aime tous le même sport, on aime tous la même chose, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de policiers qui soient ravis d'exercer leur mission dans un stade mort ou d'avoir à mener des interventions musclées inutiles à 30 avec la matraque et le bouclier pour attraper quelqu'un qui allume un fumigène. Enfin, il y a le bon sens et la raison qui vont primer par le dialogue.
Régis Jonico, Pierre Barthélémy, vous restez avec nous encore dans cette émission consacrée aux supporters. On va libérer Jean-Guy Rioux parce qu'il y a une réunion donc pour préparer le déplacement à Alexandria. Donc bonne réunion et puis à très bientôt sur France Bleu. Merci d'être venu.
Merci, à bientôt.
Et Paul aussi, Dévecte, reste avec nous jusqu'à 19h dans ce 100% club. Mais d'abord, on fait un petit rappel sur vos conditions météo pour demain. On a à peu près la même journée qu'aujourd'hui, avec beaucoup de nuages le matin, un peu plus de soleil l'après-midi et des températures qui vont monter jusqu'à 15 à 17 degrés en pleine et jusqu'à 11 degrés sur le relief.
La météo avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les entreprises et les professionnels. Rendez-vous sur mutualia.fr.
On fait la route ensemble sur France Bleu Saint-Etienne. Loire vous accompagne évidemment. Toujours ces ralentissements qui sont bien présents et puis habituels autour de Saint-Etienne, sur la rocade Est entre Saint-Priest-en-Jarret et Saint-Germain-de-Fonds dans les deux sens de circulation. Également sur la rocade Ouest de Roche-la-Molière vers Villars et dans l'autre sens en direction de la Ricamarie. Un petit peu de ralentissement aussi à hauteur de Firminy sur la Nationale 88 en direction d'Issingeau puisqu'il y a des travaux dans ce secteur-là. Attention aussi pour l'approche de Saint-Chamond quand vous venez de Sorbier. Ça peut ralentir aussi direction direction le centre-ville de Saint-Chamond-du-Monde aussi pour sortir de la 72 à hauteur de la sortie de la Foyouse pour Saint-Galmier et Saint-Just-Saint-Rambert. 04 77 10 00 10
France Bleu, 100% club.
Spécial supporter jusqu'à 19h. On se retrouve dans 3 minutes avec Régis Brunico, Pierre Barthélémy et Paul Dévecte. A tout de suite.
Dis-le-moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal.
Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien.
Dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change.
Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là.
Slimane, ça va, ça vient sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, 18h41.
France Bleu, 100% club.
Et jusqu'à 19h, émission consacrée aux supporters de façon générale. On ne parle pas que des supporters des Verts d'ailleurs, on parle de tous les supporters de football, puisque hier avait lieu la 5e réunion plénière de l'instance nationale de supporterisme. On est avec Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters, et également Régis Joannico, député de la Loire, et Paul du site envers et contre tous.fr, et puis également avec vous au 04 77 10 00 10. Il y a Damien d'ailleurs qui veut nous parler de discrimination et des champs homophobes. Damien d'Orléans, supporter des Verts. Bonsoir Damien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Justement, on vous écoute Damien.
Moi je vais dire que les chants qui étaient pratiqués dans les stades, alors bon, je dis pas que sur ces chants-là, je dis pas que ce sont des chants très intelligents. Moi-même je les chante, mais en aucun cas ce sont des chants homophobes. Je veux dire, en aucun cas les gens qui chantent ça dans les stades visent la communauté gay en fait. Moi j'ai des amis, ils sont gays, ce sont les premiers à chanter voilà ce genre de chant. Une nouvelle fois, c'est pas forcément des chants voilà très très recherchés, mais moi je vois pas vraiment de discrimination là-dedans en fait.
Justement, ouais, c'est une question qu'on peut poser à Pierre Barthélémy, avocat des supporters. Comment on peut plaider la cause des supporters dans ce cas-là précis de chants dits homophobes, qui, quand c'est dans le cas de Damien, et je suppose qu'en effet, il n'est pas le seul comme ça, il n'y a pas l'intention de viser une communauté.
Oui, juridiquement, je confirme qu'il y a très très peu de chances, et de toute façon, le ministère de la Justice l'a confirmé à l'instance nationale du sportif, il y a très peu de chances que ça soit caractérisé de l'infraction pénale d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle des personnes, parce qu'il manque l'élément intentionnel. On ne vise pas des personnes parce qu'elles ont une orientation sexuelle particulière. C'est une volonté d'injurier les supporters adverses dans le cadre des injures qui existent entre tribunes, mais le caractère homophobe est absent. En revanche, la question qu'on peut se poser, au-delà du droit et des qualifications, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on veut continuer avec des chants qui manifestement blessent des personnes, sachant qu'on va pas au stade pour, enfin voilà, on va pas au stade pour ça, on va pas au stade pour blesser des gens. Si on prend conscience que ça peut blesser des gens, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça? Non, on connaît les groupes de supporters, on sait qu'ils sont souvent très impliqués au niveau local dans la lutte contre les discriminations, contre l'exclusion sociale, contre la violence sociale. Est-ce que ces groupes-là ont envie de contribuer, même indirectement et sans que ce soit leur volonté, à exclure des personnes qui sont déjà exclues dans la société ou dans leur famille à cause de leur orientation sexuelle? Est-ce que ces personnes-là ont envie, on a envie qu'elles soient aussi exclues au stade où pourtant elles parlent la même langue, la même passion, à cause de ces chants? C'est une question qu'il faut se poser, et chaque groupe peut faire sa propre analyse et prendre ses propres décisions. Mais effectivement, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de vrai risque pour les groupes de supporters.
Du coup, Damien, est-ce que ça vous fait réfléchir? Et quand vous entendez Pierre Barthélémy sur ce sujet-là, est-ce que Damien, ça vous fait réfléchir quand vous êtes au stade? Est-ce que vous dites, je vais plus les chanter? Quelle est votre réaction du coup, Damien?
Non, mais ça ralentit l'envie. Forcément, après, on n'a pas non plus envie que les matchs soient arrêtés pour ça. Donc, il est quand même préférable, voilà, de chanter autre chose. Il y a de multiples chants qui existent. Voilà, je pense que maintenant, faut aussi passer à autre chose. Il y a des enfants qui sont devant la télé, qui vont au match. Il y a des familles, tout ça. Après, voilà, ce genre de chants insultants, ce genre de mots qu'on peut prononcer, malheureusement, j'étais dans un match de hand il y a 15 jours, je l'ai entendu. Vous allumez chez vous la télé le soir à 8h, vous l'entendez, alors qu'il y a des enfants aussi qui peuvent être devant la télé. Ça n'existe pas que dans les stades de football, en fait.
Oui, bien sûr, c'est sociétal, on peut dire ça comme ça. Pierre Barthélémy, justement, ces interruptions de match à cause de chants homophobes qui avaient été mis en place en début de saison, c'est très vite arrêté, on n'en voit plus.
Oui, c'est derrière nous, parce qu'on a compris que c'était complètement contre-productif. D'une part, que les supporters ont toujours un réflexe un peu d'autodéfense, d'autodérision, qui est de jouer dans ce cas-là à celui qui tiendra le plus longtemps. Donc effectivement, ça marche pas. Et puis il y aurait eu un concours du plus grand nombre de matchs arrêtés. Et puis en plus, c'est donner un pouvoir à quelques personnes. C'est-à-dire que si jamais demain je suis à la lutte pour le maintien par rapport à un autre club, qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les tribunes de ce club-là et de lancer un chant qui fait arrêter le match et qui fait perdre le match en tapis vert au club? Enfin, il y a des considérations beaucoup trop importantes. Et puis de toute façon, c'est complètement inefficace. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On n'a jamais fait évoluer les mentalités ou sensibiliser les personnes en arrêtant des matchs et en les stigmatisant.
Paul. Oui, c'est d'ailleurs un petit peu ce que le président Le Graët avait regretté en expliquant qu'au final, dans ces situations-là, le football était pris en otage. En fin de compte, c'était le football plus que les tribunes en elles-mêmes. Donc c'était effectivement ça ne servait personne, ça desservait la cause du foot. Et puis surtout, les supporters ont toujours un coup d'avance dans ces cas-là. Et ils ont été très inventifs, j'ai trouvé, par rapport au débat de société qui avait engendré les propos de Marlène Schiappa et de Madame la Ministre. Et j'ai trouvé que les supporters avaient très bien réagi, avec beaucoup de second degré et beaucoup d'humour. Donc au final, je pense que finalement, les supporters en sont presque sortis grandis, alors qu'à la base, c'est eux qui étaient stigmatisés.
Régis Joannico, par quel biais éducatif, pédagogique, peut faire évoluer, changer les mentalités et les habitudes?
Et deux choses. Pour moi, la mission principale, elle est confiée à l'éducation nationale, c'est à l'école aujourd'hui de mener cette mission à bien, voilà, de lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de couleur ou d'orientation sexuelle. La question qui peut se poser effectivement par rapport à un stade, moi je souhaite que les stades restent des lieux de liberté d'expression, très fort. Et d'ailleurs, les groupes de supporters s'en privent pas, ils ont souvent des banderoles qui sont assez bien vues, et à des messages politiques, ça peut s'adresser aux dirigeants, ça peut s'adresser parfois de façon assez virulente à la Ligue nationale de football, ça peut aussi s'adresser aux politiques. Je trouve que voilà, c'est un espace qu'il faut préserver, surtout que effectivement, et Pierre Barthélémy l'a rappelé, il y a aussi beaucoup d'humour là-dedans. Maintenant, je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie. La question qui peut se poser, c'est à partir du moment où aujourd'hui la société ne tolère plus, je dirais, d'expression homophobe dans l'espace public, est-ce que ce qu'on ne tolère pas à l'extérieur du stade peut être toléré à l'intérieur d'un stade? Mais je vise en cela plutôt les comportements individuels qui consisteraient pour des énergumènes à venir spécifiquement dans un stade en sachant qu'ils ont une impunité pour s'exprimer avec des messages à caractère homophobe. Et là, il faut faire preuve de discernement par rapport à ce qu'est la culture de longues années de chants supporters. Bon, là aussi, peut-être qu'il peut y avoir des évolutions, hein, ça prendra encore quelques années. Mais voilà, je voudrais pas que ça devienne un lieu de défouloir pour un certain nombre de personnes qui viennent exprimer un message spécifiquement homophobe. Par contre,
Pierre Barthélémy, vous êtes pour un changement des sanctions qui peuvent être appliquées en ce moment?
Alors, si on parle des sanctions de la commission de discipline de la Ligue, oui, c'est n'importe quoi, hein, ça, il n'y a pas de doute. Enfin, c'est d'autant plus n'importe quoi qu'on est quand même sur une période où, depuis l'arrivée de Mme Baudelatour, il y a un dialogue de grande qualité avec la Ligue sur l'ensemble des sujets, une disponibilité qu'on n'avait jamais vue, une compréhension. Il y a eu la création d'une personne en charge des questions de supporters à la Ligue. Cette personne est très active dans la mise en place des référents supporters dans les différents clubs. Donc il y a un travail comme on n'aurait même pas pu en rêver, j'ai envie de dire, à la Ligue. Et dans le même temps, il y a cette commission de discipline indépendante de la Ligue qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire qui détruit un peu tout le dialogue avec des sanctions collectives aberrantes, et puis en plus on a en plus souvent l'impression qu'elles sont dictées par des considérations politiques ou autres, dont le président de la commission de discipline de la Ligue va dans la presse pour stigmatiser en les nommant des groupes de supporters de certains clubs en disant que plus ou moins ils veulent régler leur compte, alors que en fait on voit bien que d'une part les sanctions collectives elles ont un problème de justice parce qu'on ne punit pas 5000 personnes pour le comportement de 50. Elles ont un problème d'efficacité. Aujourd'hui il y a de plus en plus de huis clos fermés sur les tribunes alors que il y a de plus en plus, en réponse il y a de plus en plus de fumigènes, donc ça n'a absolument aucun effet. Il y a un problème de sécurité quand vous fermez l'espace visiteur des supporters à l'extérieur parce qu'il y a eu des fumigènes au match précédent à l'extérieur. En fait, vous n'empêchez pas les supporters visiteurs de se déplacer, mais vous privez le préfet et le club local de l'espace sécurisé pour les accueillir. Donc vous les invitez grosso modo à aller au milieu des supporters visiteurs, enfin des supporters locaux. Donc c'est n'importe quoi. Et le dernier point, c'est que la commission de discipline de la Ligue, elle a simplement vocation à sanctionner les manquements des clubs. Elle n'a pas vocation à sanctionner les supporters. Or, on voit bien dans le discours de la commission de discipline de la Ligue et de son président, et dans la façon dont sont rédigés les huis clos, que la volonté, en fait, c'est de considérer que le club a fait son travail correctement et que du coup, on va utiliser le huis clos, qui est une sanction contre le club, pour sanctionner les supporters. Donc c'est un détournement qui est assez indigne et qui vraiment nuit à tous les travaux qui sont menés en parallèle. Et c'est d'autant plus aberrant que dans le même temps, on n'a jamais autant développé les outils de sanctions individuelles avec les sanctions avec les interdictions judiciaires, les mesures de sécurité avec les interdictions administratives, et en plus maintenant l'interdiction commerciale de stade depuis 2016. Donc on a tous les outils pour viser personnellement les personnes qui ont des comportements répréhensibles, et bizarrement au moment où on a le panel des outils le plus large pour des sanctions individuelles, on développe et on fait exploser le nombre de sanctions collectives. Donc ça n'a aucun sens, et la commission de discipline de la Ligue va vraiment à contre-courant à la fois du développement du dialogue, qui est vraiment très bon, il faut le dire, avec la Ligue, et du bon sens. Enfin, ouais, vraiment, c'est n'importe quoi, il faut le dire.
Justement, on va parler des fumigènes dans un instant, parce que alors, ça n'a pas été forcément un sujet abordé hier, hein, dans cette réunion, mais en tout cas, ça fait partie des questions qui se posent évidemment en ce moment au sujet des supporters. On fait une courte pause dans ce 100% club et dernière partie ensuite. On est ensemble jusqu'à 19h avec Régis Juanico, toujours avec nous, Pierre Barthélémy et Paul d'Envers et Contre Tous.
France Bleu, 100% club.
France Bleu. Chamond retrouve son chaudron après deux défaites à l'extérieur. Les Bazoukats reçoivent Évreux vendredi. L'occasion de bénéficier du soutien de ses supporters à la halle Bouloche face aux Normands à égalité au classement. Saint-Chamond-Évreux vendredi 20h à Bouloche.
Ici, ça bouge.
France Bleu Saint-Étienne-Loire a un coup de cœur pour les escapades chocolatées à Issingeaux les 2 et 3 novembre prochains. Des chocolatiers, des démonstrations, des dégustations, des ateliers découvertes du chocolat, sans oublier l'espace gourmandise d'auteur. Retrouvez France Bleu Saint-Étienne-Loire en direct dimanche de 10h à 12h30. Les escapades chocolatées à Issingeaux à consommer sans modération.
France Bleu, partenaire de Mask Singer, le phénomène mondial présenté par Camille Combal arrive sur TF1. 12 célébrités masquées, sous des costumes spectaculaires, s'affrontent en chantant les plus grands tubes.
Le jeu est dingue.
Qui se cache derrière les masques? À vous de mener l'enquête.
Moi je connais pas cette voix, moi la voix je la connais.
Avec nos 4 détectives, Alessandra Sublet, Angoun, Jarry et Kev Adams.
C'est l'émission où tout est possible.
Mask Singer, vendredi 8 novembre sur TF1 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu, France Bleu, 100% club, 100% club
et 100% supporter jusqu'à 19h avec Paul d'Envers et contre tous.fr, Pierre Barthélémy, avocat de l'Association nationale des supporters, et Régis Joannico, qui est député de la Loire et qui fait partie de la mission parlementaire sur le sujet des supporters. Régis Joannico, on va évoquer les fumigènes, puisque un autre député de la Loire nous a déclaré chez nous sur France Bleu hier qu'il y a une volonté d'expérimenter des fumigènes en bas de tribune, et on l'a un petit peu évoqué rapidement dans cette émission. Vous êtes pour cette mesure, et plus globalement, est-ce que vous êtes pour ou contre les fumigènes dans les stades de foot, Régis Joannico?
Alors moi je suis pour des tribunes qui soient pas aseptisées, et je suis pour un football populaire. Donc la question c'est quel compromis on peut trouver et quelle expérimentation on peut mener. Stéphane Testé, qui est le député de Seine-Saint-Denis qui siège à l'instance nationale du supporterisme, me disait que cette question n'avait pas été évoquée hier. Il y a un groupe de travail qui a été mis au point, donc qui va certainement faire des propositions dans les prochains mois. La Ligue de football nous a indiqué avoir notamment proposé au Havre une expérimentation de craquage de fumigène sécurisé, c'est-à-dire en bas de la pelouse, hors tribune, donc sur un sol sécurisé, inifugé, et puis avec 6 ou 7 supporters. Donc je ne sais pas si cette expérimentation va avoir lieu au Havre ou pas. Mais moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que comme on l'a fait pour tribune debout, on puisse expérimenter effectivement une forme de d'espace sécurisé. Alors en tribune ou hors tribune, ça va être le débat, hein. Mmh. Puisque bien évidemment les groupes ultra aujourd'hui, notamment à Saint-Étienne, souhaitent que ça soit en tribune. Voilà, hein. Après ça pose un certain nombre de problèmes de sécurité, hein. Un fumigène ça brûle, hein. C'est entre 800 et 1000 degrés, ça peut provoquer des brûlures, ça peut provoquer des feux de banderoles. Mais si techniquement on peut peut-être s'inspirer d'un certain nombre d'autres exemples étrangers, je crois qu'en Autriche, en Allemagne, il y a des choses qui se font. Moi je suis pour qu'on aille assez vite sur l'expérimentation et puis qu'on permette effectivement ces craquages de fumigènes en toute sécurité.
Paul, vous qui êtes un supporter des Verts, vous qui êtes un habitué des tribunes, vous pensez quoi de cette expérimentation, de cette volonté en tout cas d'expérimentation?
Je pense que c'est une bonne idée d'aujourd'hui d'essayer des choses et surtout d'ouvrir le débat autour de la question des fumigènes dans les stades. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui les groupes de supporters, sans parler forcément des groupes de supporters stéphanois, mais dans leur globalité, seront ouverts eux-mêmes à cette proposition, libre à chacun après d'avoir un avis sur le sujet. Moi, je trouve que malheureusement, l'histoire des tribunes fait qu'il y a toujours eu des fumigènes dans les stades en France, et au fil des années, c'est devenu un problème, alors que techniquement parlant, ça n'en était pas un à la base. Donc je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie autour de la question des fumigènes, qui est un peu l'utilisation et presque le symbole du supporter. Donc on veut toucher à ce symbole dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, effectivement, que s'il doit y avoir des expérimentations, à titre personnel, je suis totalement pour. Et libre à chaque groupe de supporters de France de participer ou non à ces expérimentations-là.
Justement, à l'Association nationale des supporters, je suppose que ce sujet des fumigènes a été évoqué. Mais pourquoi ça pas été évoqué hier en réunion plénière de l'instance nationale du supporterisme, Pierre Barthélémy?
Alors, on a juste fait un, ça a été évoqué dans le sens où on a juste fait un point sur l'avancée du groupe de travail, mais le groupe de travail n'était pas assez mûr dans l'avancée de ses travaux pour qu'il y ait des préconisations qui soient déjà présentées à cette instance plénière. En revanche, maintenant, il y aura des instances plénières tous les 6 mois et ça devrait être à l'ordre du jour de celle qui interviendra dans 6 mois. Donc, ça avance. C'est juste que nous aussi, du côté de l'ANS, on n'était pas encore forcément prêts. Mais pour répondre à ce qui a été dit, en fait, notre objectif, c'est pas de trouver une solution magique qui plaira à tout le monde. C'est de trouver une ou plusieurs solutions que chaque groupe sera libre ou pas d'utiliser, mais même s'il y a que 2 groupes ou 3 groupes qui l'utilisent la première année, bah pour nous c'est déjà un progrès. Ça veut dire que on peut réfléchir ensemble. Et enfin déjà le simple fait que vous ayez autour d'une table la Ligue, la Fédé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et les supporters qui parlent de fumigène, enfin on se rend pas compte, mais c'est un progrès gigantesque, puisque il y a encore quelques années la réponse c'était c'est interdit, point, merci, circulez, il y a rien à voir. Et aujourd'hui non seulement on parle de comment travailler sur la question, mais en plus on laisse toutes les pistes ouvertes, c'est-à-dire aussi bien du matériel qui serait innovant, ou des zones particulières où on pourrait craquer, ou alors des dossiers qui seraient déposés en préfecture et validés par les pompiers pour des shows pyrotechniques pour un anniversaire de club par exemple. Enfin, on réfléchit, tout est ouvert et on réfléchit énormément, donc c'est vraiment important. Mais je pense qu'en fait ça arrive aussi parce que tout le monde a compris que d'une part ça fait du mal au dialogue, puisqu'on cristallise beaucoup de tensions sur les fumigènes et on résume rapidement les statistiques d'infractions et de mesures d'interdiction de stade à la violence, alors qu'en fait elles sont essentiellement appuyées dans la pyrotechnie. Et puis on s'est rendu compte que la sanction ne marchait pas. On a chaque année de plus en plus de fumigènes alors qu'on a de plus en plus de sanctions, ce qui montre bien que voilà, on peut pas empêcher un fumigène de rentrer dans un stade, ni par la prévention ni par la sanction. D'autre part, que la répression était plutôt la seule source de danger en matière de fumigène, c'est-à-dire que aujourd'hui pour rentrer un fumigène on va scier la partie par laquelle on le tient pour se protéger la main, et donc on le tient directement par le petit bout qui est aussi le bout d'artifice, donc on risque de se brûler beaucoup plus qu'avant. Pour ne pas se faire attraper quand on se faire identifier quand on l'allume, on a tendance à se cacher sous une bâche à 30 et allumer les fumigènes dessous avec la tête au-dessus, donc le risque est beaucoup plus important. Et quand les stadiers ou la police arrivent pour interpeller celui qui a le fumigène, on a tendance à le lancer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la répression qui est la plus grosse source de danger en matière de pyrotechnie. Ouais. Donc tout le monde a compris qu'il faut se mettre autour de la même table, réfléchir, et peut-être que ça échouera, hein. Peut-être que finalement on trouvera aucun accord, qu'il n'y a rien qui plaira à personne, mais au moins on aura essayé.
C'est un sujet qui sera discuté dans les semaines et les mois à venir, et on sera évidemment attentif à ce débat sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci beaucoup Régis Joannico, merci beaucoup Pierre Barthélémy. On aurait pu encore continuer longtemps de parler de la condition des supporters, et à très bientôt dans 100% Club sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci beaucoup aussi Paul d'avoir été avec nous.
Merci à vous Olivier.
Émission à réécouter quand vous le voulez sur francebleu.fr. évidemment, demain on revient et on parlera des féminines de l'AS Saint-Etienne. On sera avec Charlotte Gauvin, la capitaine des féminines de l'AS Saint-Etienne.
France Bleu, 100% club.